Dialogue entre Congolais présenté par Alain Young.
Bonsoir, perdissant de l'insécurité à l'est de la RDC, honorez-vous les combats se poursuivent à Nyabiondo dans le Masisi entre FRDC et Maïmaï du général Janvier. Offensivez-vous, les FDLR continuent à mener des attaques, notamment Kabaré et Kalehi. À Bounia, en province orientale, des mouvements des troupes rebelles sont signalés à Irumu et Mambasa. Comment expliquer la persistance de l'insécurité dans cette partie du pays et quels mécanismes mettre en place pour la pacifier? Nos invités dans cette émission sont Mohamed Boulé, député national de l'opposition et général à la retraite. Honorable Boulé, bonsoir.
Bonsoir.
Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Ils vont nous rejoindre dans un bref moment. Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions et nous vous en remercions. Boutchanda Willy de Bouya en province orientale dit « La persistance de l'insécurité dans toutes ses parties citées est due au fait que certains responsables militaires qui dirigent les opérations en tirent profit en sacrifiant leurs éléments, qui s'adonnent à l'exploitation des matières premières telles que l'or, le diamant et autres. Cette chaîne ne se limite pas seulement au niveau des districts ou des provinces, mais elle va jusqu'à Kinshasa. Charles Moussa Goma de Kabaré au sud Kivu, il faudrait que les opérations militaires soient permanentes, mais aussi que le gouvernement mette les militaires dans des conditions dignes, ne plus jamais donner des postes à tout celui qui a un jour conduit une milice pour pouvoir faire la paix. C'est un signe de faiblesse. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocatu.net.
Au nord Kivu, la situation reste toujours confuse dans les régions de Loupéti et Luabo où les combats se poursuivent entre les FARDC et les Maïmaï APCLS. Les autorités militaires avancent un bilan provisoire de 4 blessés légers du côté des FARDC, 6 combattants Maïmaï tués et 2 autres capturés. Ces informations ne sont toujours pas confirmées par des sources indépendantes. Le point avec Gabriel Wamenia.
Selon les autorités administratives de Masisi, les combats se poursuivent encore dans les secteurs de Loupéti et Luobo. Ce matin même, les FARDC auraient attaqué une des positions Maïmaï APCLS à Luobo, a souligné un responsable du 810e régiment basé à Katale près de Masisi centre. 6 Maïmaï auraient été tués et 2 autres capturés. Ces responsables ajoutent qu'un bébé d'une année abandonné par les combattants dans leur campement a été récupéré par les FARDC. Les sources du 810e régiment affirment aussi que la cité de Loupéti, l'un des grands bastions des Maïmaï coalisés aux FDLR ainsi que ses environs, sont actuellement vidés de leurs habitants. Mais ces informations, tout comme les bilans fournis par les FARDC, ne sont toujours pas confirmées par d'autres sources indépendantes dans la région. L'administrateur de Masisi affirme de son côté qu'un militaire FARDC a été blessé hier au cours des affrontements à Loupé, une vingtaine de kilomètres à l'est de Masisi centre. Pour l'instant, en tout cas, règne une confusion quant aux forces qui contrôlent l'axe Masisi-Niadion de Loupéti. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Capi.
Au sud qui vous voisin, on compte d'une part 2 personnes blessées par balle au village de Kifuku, complètement pillées et incendiées, d'autre part 7 femmes violées à Kalinganya. Bilan des attaques consécutives sur ces villages dans le groupement d'Ihembe en territoire de Kabaré. Notez que ces attaques font partie d'une série de 3 assauts perpétrés par des présumés FDLR sur 3 groupements. du territoire de Kabaré entre mardi et jeudi. Toujours au sud Kivu, dans une attaque menée du jeudi 1er au dimanche 4 mars dernier, dans trois villages situés près des Kingi, en territoire de Kalehe, 36 personnes ont été tuées dans la région de Bunyakiri lors d'une attaque imputée à la milice Raia Mutombo, qui parmi les victimes, 31 Rwandais dépendants des combattants FDLR, 2 civils congolais et 3 Raia Mutomboki. Rendons-nous maintenant en province orientale, en Ituri. Des mouvements de troupes rebelles s'observent depuis le début de la semaine dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. D'un côté, Cobra Matata et ses combattants de FRPI sont regroupés à Geti, localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Bunia. Et de l'autre, Kasambasa alias Simba, un officier FRDC déserteur, menace d'attaquer Mambasa Centre et les installations de la réserve Afona Okapi RFO à Epulu. Jean-Paul Basila.
Notre dit colonel déserteur Kasambasa et ses hommes de troupes, parmi eux des braconniers, étaient aperçus aux environs des bandes Sende. De ce village situé à 40 km de Mambasa Centre, une colonne de ses assaillants avait pris la direction des Poulous vers les installations de la réserve à Fona Okapi RFO. Le responsable de la RFO n'avait pas attendu. Ils avaient fui quelques heures plus tôt et trouvé refuge à Mambasa Centre. C'est jeudi matin à Bunia, le commissaire des districts Prédi Bosomba a signalé le mouvement des renforts FARDC en provenance du territoire de Bafrasine vers Mambasa pour stopper la progression de l'officier déserteur et ses hommes. À Geti, à plus de 40 km au sud de Bunia, ses Cobra Matata et ses 2000 combattants armés et habillés en uniforme FARDC qui ont établi leur quartier général depuis mardi dernier. Ils disent continuer d'attendre la réponse du gouvernement face à leur demande de brassage avec l'armée régulière. La société civile locale indique que leur survie est assurée grâce aux collectes et des vivres effectuées au sein de la population. Du côté des autorités militaires, c'est le silence total. Le même autorité reconnaît toutefois avoir retiré tous les militaires jadis déployés dans les zones actuellement sous contrôle des miliciens pour besoin de formation des régiments en cours. Bouya, Jean-Paul Bastila, Radio Okapi.
Toujours en forêt orientale, la présence d'éleveurs Mbororo dans le territoire d'Ango, à plus de 600 km au nord de Kisangani, inquiète les habitants de cette entité. La plupart ne savent plus aller dans la forêt pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Conséquence, les produits des champs, de pêche et de chasse se font rares dans les centres de consommation. Le ministre provincial de l'Intérieur promet de faire un rapport à sa hiérarchie pour une éventuelle solution. Voilà, nous avons planté le décor. Monsieur le gouverneur Julien Faloukou, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir.
Comment vous expliquez la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu que vous dirigez?
Oui, merci beaucoup. C'est pratiquement la énième émission à laquelle je participe qui parle de l'insécurité ou de la sécurité dans l'Est, la RDC. La question telle que vous la posez mérite une attention particulière. Pour la comprendre, il faut bien connaître les facteurs qui sont à la base de cette insécurité depuis l'aurore des temps. Comme vous le savez, il y a deux ou trois facteurs. Le premier, c'est les guerres, les rébellions à répétition que nous avons connues dans la province. Il y a l'entrée des réfugiés rwandais à 94 et bien avant cela, l'entrée des forces ougandaises à 86, juste quand le président Museveni prenait le pouvoir. Mais il y a les ratés de la démobilisation. Vous savez, il y a un programme qu'on appelle le CONADER, qui était la Commission nationale, je crois, des démobilisateurs de l'insertion. C'est un programme qui avait pratiquement raté dans ses missions essentielles, parce qu'évidemment, les gens qui devaient être réintégrés et réinsérés dans la vie sociale ne l'ont pas été correctement. Et cela a ramené des hommes qui avaient touché les armes à revenir sur leurs anciennes habitudes. Donc, voilà quelques facteurs qui nous amènent maintenant à des défis majeurs que nous connaissons dans la province, notamment les défis liés à la réforme du secteur de sécurité. Comme vous le savez, au nom de la paix, on a fait une intégration accélérée au Nord Kivu, où on a pris les militaires de toutes parts et poussé par la communauté internationale pour qu'on mette fin à la guerre. Nous avons mis ensemble tous ces militaires venus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et ce sont ces militaires-là qui forment notre armée. Donc vous comprenez que à la suite de tous ces facteurs que je viens de développer et des défis à relever, il se pose un problème très sérieux pour la nation congolaise, celui de la réforme du secteur de sécurité qui doit être axée autour de trois piliers, à savoir la réforme de l'armée, la réforme de la police, la réforme de la justice. Et je crois que c'est là les trois piliers sur lesquels le gouvernement congolais doit devoir axer sa politique pour que peut-être dans dans une projection de 10-15 ans, nous puissions avoir un pays, une région qui respire comme toutes les régions. Quand vous prenez par exemple l'Ouganda, l'Ouganda a connu la guerre à 86, nous sommes aujourd'hui à 26 ans après la fin de la guerre. Le Rwanda a terminé sa guerre à 94, nous sommes à 18 ans pratiquement. Et aujourd'hui, le déficit que nous connaissons, nous les Congolais, c'est un déficit de comparaison. On compare la RDC qui vient de terminer sa guerre il y a 3 ans avec des pays voisins qui ont 26 ans de la fin de la guerre. Donc, moi je voudrais relever cet aspect-là pour simplement dire que nous avons encore des défis à relever, mais par rapport au temps que nous venons de faire à l'État qui nous sépare de la fin de la guerre, je crois quand même qu'il faut noter des avancées par rapport à ce que nous connaissons. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez décrit comme tableau, mais à vous attendre de dire, on croirait que c'est la fin du monde au nord de vous, ou bien en province orientale, ou bien au sud de vous. Moi qui vis avec la population, nous savons quand même que sur le plan comparatif, il y a quand même des choses qui ont changé, même si on note ça et là, des éléments de APCLS, des éléments de Tchéka, des éléments des FDLR qui continuent à déstabiliser la région.
Mais à vous entendre, à vous comprendre, monsieur le gouverneur, on a comme l'impression, peut-être que je me trompe, que puisque vous parlez du déficit de comparaison, on a l'impression que la persistance de l'insécurité est un peu normale.
Non, l'insécurité ne peut jamais être normale. Aux États-Unis comme en France, l'insécurité n'a jamais été normale. C'est toujours des faits qui ôtent la vie humaine à des populations. Mais quand on voit la situation, par exemple, de l'Est, il y a 5 ans, comparée à celle que nous vivons aujourd'hui, je crois que même si on est frappé par la cécité, on doit comprendre qu'il y a des choses qui ont changé. Goma, pratiquement, le Nord Kivu ou la province orientale, on sait quand même que l'hypothèse de 2002, l'hypothèse de 2003, n'est pas l'hypothèse de 2011 ou de 2012. Quand on voyait tous ces groupes qui pilonnaient dans la région, qui sont à la base aujourd'hui de la condamnation de Thomas Lubanga, on se rend quand même compte que les choses ont changé. Quand on voit au sud Kivu, combien de groupements, combien de chefferies étaient occupées par les FDLR. Quand on voit les universités, les hôpitaux, les écoles qui étaient dans les machines, qui ont été détruits par les opérations Umojawet, les opérations Kimia 1, les opérations Kimia 2, les opérations Kifagio, je crois qu'à chaque opération, il faut quand même lier un nombre de résultats qu'on a atteint. Mais comme on peut atteindre la sécurité à 100%, on convient avec les auditeurs qu'effectivement, il y a encore à faire, et c'est cela qui motive que le gouvernement doit redoubler beaucoup d'efforts pour sécuriser totalement sa population.
Et Mary Moussagaloussa Moudinga de Bukavu Sud qui vous dit aujourd'hui, au-delà de la persistance et conflit à l'Est, il faut se poser une question de fond, celle de savoir à qui profite l'insécurité à l'Est de la RDC. Cette dernière n'est-elle pas devenue une opportunité pour les uns alors qu'elle est une menace pour les autres? Jusque-là, nous avons du mal à nous faire une idée exacte sur les résultats de l'intégration des groupes armés et les diverses opérations de traque des groupes dits résiduels et des FDLR dans ce contexte où l'insécurité bat son plein. Monsieur le gouverneur, une réponse brève, je vous en prie.
Oui, à qui profite l'insécurité? Évidemment, l'insécurité profite à ceux-là qui étaient des dividendes, notamment les groupes armés locaux et étrangers. Évidemment, c'est cela qui nous interpelle nous tous. Quand on voit l'insécurité à l'Est, on se rend compte que, à part l'accusation que nous formulons à l'endroit des groupes armés étrangers, nous devons reconnaître que la plupart des acteurs sont aussi locaux. Quand on voit le Nord qui vous, le Sud qui vous, la province orientale, il n'y a pas seulement que les étrangers qui déstabilisent. Il y a beaucoup d'éléments nationaux et locaux qui sont à la base de l'insécurité. Et nous, quand nous analysons à fond, nous trouvons que au chapitre de Côte, on peut également recenser la pauvreté et le chômage des gens. Parce que tous ces jeunes garçons qui pilulent dans la région, qui n'ont pas où aller, ils s'abreuvent facilement à une philosophie selon laquelle vous venez dans une colline, on va commencer un mouvement rebelle et on peut s'approvisionner sur tel village et tel autre. Donc, c'est un réseau très dense qu'il faudrait analyser sa passion pour qu'on les comprenne et qu'on se mette dans l'option où le gouvernement a des défis majeurs à relever qui ne doivent pas se comprendre seulement dans une ligne unidirectionnelle comme on le pense souvent dans les analyses biaisées de certains hommes politiques.
Merci monsieur le gouverneur. Honorable Mohamed Boulet, vous êtes député national de l'opposition et général à la retraite. Vous avez suivi le gouvernement
gouverneur Julien Paluku. C'est la énième émission sur l'insécurité à l'est de la RDC, mais c'est qu'on a quand même l'impression que les lignes ne bougent pas suffisamment, les choses ne changent pas suffisamment. Quelle est votre analyse?
Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer son excellence, M. Julien Paluku, ainsi que le professeur Bobé Tabamba. Oui, j'ai suivi monsieur le gouverneur dans son analyse tout à l'heure. Je voudrais pour ma part dire que si nous devons remonter un peu pour voir d'où venons-nous, je suis d'avis que ce qu'il a évoqué est bien certain. Et de noter qu'à la suite de ces guerres fratricides, ces rébellions qui sont nées partout par la volonté de tous les Congolais, réunis et puis qui ont conclu cet accord du dialogue intercongolais, il était ressorti des objectifs qu'on a confiés au gouvernement de transition. Je voulais rappeler, le premier objectif, c'était la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité du territoire, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la réconciliation nationale, la formation d'une armée nationale, restructurée, intégrée, et l'organisation des élections qui se sont déroulées dans les conditions que nous connaissons en 2006, la mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. J'ai entendu monsieur le gouverneur évoquer la question pour les opérations qui se sont déroulées pour réaliser ces objectifs, notamment Umoja, Kimia 1, Kimia 2, Kifagi, Oman. Et j'ajouterai même des accords signés entre les gouvernements et certains groupes armés, et évoquer également l'état d'Amani Oléo. Si aujourd'hui il y a persistance de l'insécurité, c'est que d'aucuns hier on parlait des résiduels de ces éléments des groupes armés. Je note pour ma part qu'il s'agit à l'intérieur de notre pays des groupes armés bien identifiés, parce que lorsqu'on parle des groupes Mai Mai du général Janvier, lorsqu'on parle des Cobras, lorsqu'on parle également de l'ERA ou des Moro, c'est identifié. Et moi, j'aurais de qualifier ça comme ils le font, comme c'est intitulé le combat. Donc, ce sont des escarmouches, des affrontements limités. Ce sont des combats localisés qui, somme toute, créent l'insécurité, justement, qu'il faut rétablir. Maintenant, de toutes ces opérations, parce que c'est résiduel qui persiste à être éliminé totalement, il y a question des rôles et des responsabilités au sein des institutions de notre pays et également la communauté internationale. Parce que, au nom de la continuité de l'État, le CONADER, le programme CONADER, je ne cesse de l'évoquer ici, s'est arrêté, il est en panne quelque part. En ce qui concerne les groupes armés étrangers, c'est la mission qui revenait à la communauté internationale à travers MONUSCO. Pourquoi est-ce que cette mission aussi me paraît aujourd'hui être aussi en panne? Et nous continuons à vivre depuis l'avènement, comme on dit, l'arrivée massive de réfugiés rwandais, ce qui nous avait été imposé à l'époque par la communauté internationale d'ouvrir alors un couloir humanitaire, et nous sommes là. Aujourd'hui, ces espaces, avec tout ce qu'on a pu proposer comme élément de solution, la réunion au niveau des pays des Grands Lacs avec dix chefs d'État, et on a ciblé d'autres programmes, notamment les STAREC, pour que la sécurité, pour que la reconstruction puisse stabiliser à l'Est et améliorer l'environnement sécuritaire, mais ça concerne le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Maniema, Otuélé, Bazuélé, Ituri, Tanganyika. Somme toute, ça fait l'espace de 560 775 km², les 2 345 410 km² que nous avons. Ça pose le problème.
C'est trop grand.
C'est trop grand. Si maintenant ces opérations n'ont pas réussi, il faut s'arrêter. Et donc, je disais le problème des responsabilités. Vous savez que dans un État légitime comme le nôtre, c'est au gouvernement qui a le monopole légitime sur les forces publiques, entendez, les forces de sécurité. C'est sa responsabilité devant les autorités démocratiques. Et nous, Parlement, nous sommes souverains
et nous tenons l'exécutif pour responsable de la formulation, l'application et l'évaluation de la politique en matière de sécurité et de défense. Et donc, nous avons fait notre devoir. Si rien ne marche, c'est au gouvernement de s'arrêter de quelque part. Et peut-être aussi les institutions de s'arrêter pour évaluer pourquoi tant d'opérations et que nous continuons toujours à noter ce qui est là chaque matin, chaque jour, qu'il y a un problème qui touche un citoyen de notre pays, des morts en trop. Et donc là, il faut évaluer pour arrêter les mécanismes. Et aussi, la communauté internationale qui nous a imposé cela, de nous venir sérieusement en aide.
Alors, honorable Boulay, l'exploitation minière n'est-elle pas la donne qui est venue compliquer, qui va fausser toutes ces opérations?
Mais je vous dis totalement, vous avez raison d'évoquer cette question. Si vous regardez la carte minière, moi j'en ai une. Quand vous voyez cette partie-là, les grabens, c'est pourri de matières premières. Et lorsque vous êtes à Goma, le gouvernement ne me dira pas le contraire. Chaque fois que j'ai été là-bas, j'ai été ahuri de voir le nombre d'avions qui quittent un pays voisin, qui passent par-dessus Goma, parce que nous n'avons pas le monopole de contrôler notre espace aérien et d'empêcher quiconque qui viendrait faire ce type de marché. Mais où vont ces minéraux? Ça passe par-dessus la tête et ça va ailleurs. Et la communauté internationale sait. Même au niveau des grands banquiers, les argentiers savent. Lorsqu'il y a de grosses sommes d'argent qui circulent, ils sentent d'où vient cet argent, à quoi ça sert.
Professeur Bopré Bamba, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aussi à son excellence, monsieur le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paloukou, ainsi qu'à mon général. Je voudrais aussi présenter mes excuses aux auditeurs pour la compenser où on a eu des problèmes de souci de connexion et de relais avec Kinshasa. Donc je suis en ligne et je suis à votre disposition.
Merci professeur. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, c'est une énième émission sur l'insécurité à l'Est. Je posais tout à l'heure la question à l'honorable Boulay. L'exploitation minière n'est-elle pas cette donne qui est venue compliquer toute l'équation?
Merci beaucoup pour la question. Maintenant, il faut quand même, comme l'a dit son excellence le gouverneur Julien Paloukou tout à l'heure, c'est qu'il faut bien se rendre bien compte, il faut mettre ça en perspective. Il faut bien que nous avons encore eu une émission, un gros dialogue entre congolais sur le même dossier il y a quelques années. Et souvenez-vous qu'à l'époque, je vous disais que il y a toujours une corrélation entre une chose. Tous les groupes armés qui naissent, Mai Mai et compagnie, ne naissent pas à n'importe quel moment. Si vous regardez sur la temporalité, vous allez remarquer que chaque fois, ces différents groupes armés et deviennent actifs à des moments bien précis du calendrier processus politique à RDC. Et à chaque fois, lorsqu'on a une opportunité politique qui est définie quelque part, vous avez une recrudescence de la violence liée à des groupes armés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de manière très claire que les groupes armés, ce sont des gens qui ne sont pas des groupes armés, ce ne sont que, je peux le dire, l'expression de manière très claire, qui ne sont que des bandits et opportunistes qui chaque fois profitent d'un momentum bien précis. On est actuellement à RDC à un moment où on est en train de faire l'information au niveau du gouvernement central et où on vient de sortir d'un processus électoral où certains ont gagné, d'autres ont perdu en termes politiques. Et ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu ont des assises ou non au niveau local. De manière très claire, on peut faire le lien sans aucune ambiguïté entre d'une part tous les processus politiques qui sont en train de se passer à Kinshasa, d'autre part ce qui est en train de se passer au niveau de Nord-Kivu et Sud-Kivu. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation claire, sans ambiguïté, entre d'une part le calendrier politique à Kinshasa et les activités des bandes armées à l'Est. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que toute une série d'hommes politiques qui sont ou ne sont pas élus, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas dans le système et celle qui l'a atteint, c'était fini. C'était fini au niveau des sous-traitants. Ils veulent à nouveau, comme en 2006, comme en 2007, comme en 2008, raviver les tensions et les violences à l'Est pour espérer exister au niveau des négociations qui sont en train de se passer à Kinshasa. Et la corrélation est tout à fait claire parce qu'on regarde en plus où se passent ces différentes violences. Les violences se passent dans des circonscriptions électorales qui sont bien déterminées et pour lesquelles on commence à voir qu'il y a un lien entre les gens qui n'ont pas ou ont été élus dans ces circonscriptions électorales-là. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui me semble hyper important sur lequel il faut se pencher, c'est l'idée que tous les groupes qui sont en train de se réanimer, qui prennent notre nom, qui prennent notre leader, mais c'est toujours le même fondement. Le même fondement, c'est les mêmes gens qui, il y a en 2006, en 2007, en 2008, ne se sont pas retrouvés, et qui espèrent encore une fois que, par ce moyen, vont espérer peser et exister, et au niveau financier, en ayant fait à des minerais, en ayant fait des trafics, etc., etc., et aussi en ayant accès à pouvoir exister au niveau politique. Alors que le système politique congolais a changé. On n'existe plus parce qu'on fait la guerre. Malheureusement, à l'Est, on a toujours l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut faire la guerre pour continuer à exister. Alors que pour acquérir le pouvoir, il faut aller aux élections. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Mortivou, Julien Paluku, a été élu, il a été aux élections. Il n'a pas dû ramasser je ne sais pas quel ministre pour pouvoir clairement exister au niveau donc politique. Il fait les élections, il a gagné les élections, il est élu. D'autres ne sont pas élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ravivent cette tension-là, qui malheureusement va s'accentuer aussi longtemps que l'on aura au niveau de Kinshasa, on va dire cette espèce de transition ou de non-décision qu'il y a à Kinshasa, on aura malheureusement, je m'excuse, une dimension importante de la violence qui va recommencer. Par ailleurs aussi, je voudrais aussi souligner un autre élément qui est aussi un dernier élément, c'est que le fait que quand on revendique des attaques, quand on revendique des massacres, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas FDLR, qui ne sont pas tout ce que vous voulez, mais qui veulent remettre la violence en se revendiquant d'être FDLR, en se revendiquant d'être ceci ou cela, pour uniquement ramener le même débat en 2006, en 2007, en 2008. Ramener à nouveau ce même débat que l'on a eu il y a quelques années.
Professeur, très brièvement, y aurait-il des ficelles qui seraient tirées à partir de Kinshasa?
De manière très claire, je répondais par l'affirmatif. C'est que moi, je regarde dans la temporalité. C'est-à-dire, je regarde la temporalité et je regarde le même momentum à chaque fois qu'il y a des violences qui surviennent à l'Est. Et où surviennent ces violences? Et je mets en relation ces violences avec le processus politique qui se met en place à Kinshasa en fonction de l'une ou l'autre tendance. Et de mes observations ainsi que de l'enseignement de plusieurs années d'observation de la région, j'ai une corrélation claire entre la dimension politique et la dimension violente qui se passe à l'Est de la RDC.
Merci, Monsieur le Gouverneur Julien Paluku. Vous avez suivi l'honorable Boulet et le professeur Bob Kabamba. Vous réagissez très brièvement à leur analyse et aussi répondre un peu à la question de savoir comment vous expliquez toutes certaines alliances contre nature entre ces milices et ces groupes armés.
Oui, je voudrais aussi à mon tour saluer les deux intervenants que je connais bien et qui sont des éminents intervenants de cette émission. Et je voudrais commencer par une analyse qui peut ne pas plaire à certains. Je crois que nous sommes en train de payer très cher une force de marche qui a été adoptée particulièrement dans ce pays dans la résolution des conflits. Cette démarche, j'estime qu'elle a été basée trop sur les crédits ou sur l'ethnie. Quand vous voyez par exemple la question de l'Ituri, elle a opposé depuis longtemps les Hema, les Lendu et les Ngiti. Quand vous voyez la question du Nord Kivu, c'est autour de Tutsi, Hutu, Hunde, Nande. Quand vous voyez la question du Sud Kivu, c'est autour de Shi, de Bembe, de Lega, etc. Et que donc, à chaque fois que le conflit a éclaté dans un milieu, on a souvent forcément pensé qu'il faut passer par les ethnies pour les résoudre. C'est ainsi que, dans le courant de l'histoire, quand un autre conflit apparaît, les gens se recroquevillent autour de leurs ethnies, parce que par le passé, on a beaucoup plus récompensé les ethnies qu'aborder une démarche politique dans la résolution des conflits. Donc, moi, j'ai fait cette analyse quand je vois comment les conflits perdurent dans cette bande qui va du nord Katanga jusqu'à la province orientale. Je prends l'exemple du nord Kivu. On a convoqué, par exemple, la conférence sur la paix en 2008. Mais dans les tentatives de solution, ce sont les ethnies qui s'affrontaient. On voit les Nandé, on prend le Hutu, on prend le Tutsi, on prend le Hunde. On pense qu'en répondant aux préoccupations des communautés tribales, on a trouvé solution au problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, que quand dans le Massissi, il y a un problème, une communauté de Massissi pense qu'elle doit chercher un groupe rebelle qui doit défendre ses intérêts pour trouver bien des causes dans une approche politique qui sera initiée par une autorité. Et c'est donc ce fossé-là, dans les démarches du processus de résolution de conflits, qui nous amène actuellement à des situations que nous avons pu gérer. Donc je considère que dans les solutions à prévoir, que très prochainement, il faudrait qu'on abandonne les solutions basées sur les considérations tribales à l'est de la RDC. Je crois que ce sera la meilleure façon de devoir trouver définitivement solution aux problèmes que nous connaissons. Je parle par expérience, c'est 5 ans que je dirige la province du Nord Kivu, et je me rends compte que nous sommes allés dans des chemins qui ne nous ont pas amenés à trouver des solutions à nos questions, et qu'il faut changer de démarche, notamment en adoptant beaucoup plus une démarche politique qu'une démarche tribale dans la résolution de conflits à l'Est.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Vous nous permettez en même temps d'aborder déjà la deuxième partie de cette émission. Quel mécanisme mettre en place pour pacifier l'Est de la RDC? Madame Jo Mounoubaï, vous êtes porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO. Quelles sont vos propositions?
Il y a 2 solutions. Des accords politiques pour que tous ces différents groupes qui sont engagés dans ce désordre, dans cette violence, mettent fin à leurs activités, mais aussi des actions militaires pour mettre fin à l'existence de ces groupes. C'est un peu la problématique de l'œuf ou du poulet. Lequel va venir avant? Est-ce que c'est une paix militaire qui va donner l'occasion à la stabilité politique pour se développer, où il faut la fin de l'instabilité politique pour mettre fin à l'existence des groupes armés? Les 2 avenues doivent être poursuivies à la fois, mais je pense que avant tout, si on peut dire quelque chose, tout ce désordre, toute cette violence que l'on observe à l'est de la République démocratique du Congo sera finie lorsque les Congolais, parce que ce sont pour la plupart des groupes congolais constitués par des Congolais, tant il faut que ces Congolais se mettent d'accord, s'entendent sur un minimum, non seulement signent des accords, mais respectent les accords et qu'il y ait une paix qui vienne vraiment des cœurs entre les Congolais. Et je pense qu'en ce moment, on aura créé les conditions nécessaires pour une paix durable.
Honorable Mohamed Boulé, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et général à la retraite. Le gouverneur Julien Paluku proposait déjà de mettre l'accent sur une démarche politique au lieu d'une démarche ethnico-tribale. Le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Mounoubaï, parle en quelque sorte d'un notre dialogue entre Congolais.
Merci beaucoup. Je partage partiellement les avis des uns et des autres. Accord politique, oui. Est-ce qu'il n'y en a pas des accords politiques? Je répondrai oui. Parce que qui ne sont pas respectés. Lorsque les chefs d'État se retrouvent à Dar es Salaam, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faut ces questions de responsabilité des rôles d'État assumer. Et au niveau interne aussi, les accords politiques. Mais lorsque notre Constitution dispose à son article 190, je vais le citer, nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. J'avais commencé par dire qu'il y a un problème de rôle et de responsabilité au niveau des institutions. Les institutions, entendez le président de la République, le Parlement que nous sommes, l'exécutif et la justice. Que faisons-nous lorsque on décide, par des accords signés par les uns et les autres, de mettre fin à la jeunesse, à la formation des militaires et des paramilitaires, et qu'on continue à accepter, à tolérer cela? Il y a un problème. Lorsque l'on signe des accords, et que certains pays bien connus, partie prenante de ces accords, n'acceptent pas de trouver des solutions internes à leurs problèmes politiques internes. Je vais citer ici, j'évoque ici le cas des FDLR. Et lorsqu'aussi nous avons des problèmes, qu'on a cité ici, des moraux, mais rappelons-nous à Copenhague, on a parlé de ce qu'ils appelaient les réfugiés climatiques. Ça aussi, il y a des décisions politiques à prendre au niveau de certaines instances régionales, sous-régionales, et ça nous en avons. Ça veut dire que c'est encore une fois de plus responsable. Nous, comme Parlement, nous responsabilisons le gouvernement à prendre toutes ses dispositions, tant sur le plan politique que sur le plan des actions militaires à organiser pour mettre fin à cela. Lorsqu'on met des actions militaires, pour éviter, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai par devant moi ici le code de conduite des forces armées, qui est une excellente brochure, mais il faut respecter les droits de l'homme, et pour cela, il faut accompagner ces militaires pour qu'ils ne dérapent pas pendant les missions qu'ils ont la charge d'assurer pour rétablir l'ordre et la tranquillité publique. Et donc, pour cela, j'ai dit qu'il faut maintenant évaluer, s'arrêter et évaluer ces accords avec certains partenaires qui ne sont pas congolais nécessairement. Et on est en interne, les évaluer également et amorcer des actions militaires pour mettre fin à cela. Parce que l'armée a comme mission d'assurer l'intégrité du territoire national, lorsqu'il y a des ennemis de l'intérieur du dedans, il faut y mettre fin. Et même ceux qui sont venus de l'extérieur. Et ça a trop duré, 5 ans, on a parlé, beaucoup d'émissions ont évoqué de cette question, mais ça tourne, nous tournons à rond.
Professeur Bobka Bamba, je vous rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Il y a Katawanja Swedi, le stoïque de Kindo Maniema, qui dit, et je prends la deuxième assertion de sa réaction, à mon avis, le mécanisme à mettre en place pour pacifier l'Est consiste à réprimer tous les meneurs et les traduire à la Cour pénale internationale, comme c'est le cas de Thomas Lubanga, professeur.
Merci beaucoup. Je voudrais réagir par rapport à ce que l'honorable Balouko a dit tout à l'heure au sujet en fait, de la question de l'ethnisation par rapport au conflit. Malheureusement, je suis au regret de le contredire pour lui dire que malheureusement, ça va rester la dimension, l'ethnisation politique va rester au niveau RDC. Cela découle uniquement du système électoral qui fait que pour être élu, il faut être élu par les tiens. De manière très claire, on aura difficile à ne pas politiser, à ne pas étudier la dimension politique en RDC. Ça découle en fait du système électoral et du système politique qui lève sa vie en RDC, malheureusement. Par ailleurs, donc, par rapport à ce que l'auditeur pose comme question de manière très claire, oui, il faut, dans ce cas-là, premièrement, arriver à mettre la main d'abord sur ceux qui sont sur le terrain, qui continuent à être exploités et qui continuent à exploiter cette violence de cette façon-là. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut aussi voir la dimension politique, en fait, l'utilisation de l'instrumentalisation politique, en fait, des différentes personnalités politiques qui sont à Kinshasa et qui tirent profit d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe lorsqu'il y a violence en RDC. Et ça, c'est une dimension. Si on n'arrive pas à couper le cordon ombilical entre ceux qui sont sur le terrain, qui font les actions, qui font de la violence, qui font des viols, etc., et ceux qui sont assis comme ça tranquillement et qui continuent de manière publique à exercer certaines fonctions sans être inquiétés, en sachant très bien que ces personnes sont impliquées dans ces violences-là, là, de mon point de vue, il y a un problème. Il y a un problème, non seulement un problème politique, mais aussi il y a un problème de manière de justice, etc. Je vais vous lire le rapport de l'ICG qui est International Crisis Group, qui avait écrit en 2009, lorsqu'ils avaient fait un rapport sur les groupes armés, et eux-mêmes, déjà à cette époque-là, faisaient le lien entre le politique à Kinshasa et la violence à l'Est, donc au-delà de tout ce qui est pillage des ressources naturelles. Il y a cette dimension-là qui est claire et qui est établie. Et donc il faut couper le cordon ombilical de ça, en pensant que puisqu'on a un groupe armé et qu'on fait de la violence, et c'est pour ça qu'on existe,
il faut arriver à justement à traduire ces différentes personnes en justice.
Merci.
Et qu'on les mette en état de nuire, c'est hyper important dans la consolidation de l'état de droit à l'Est.
Merci, professeur. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Le professeur Bob Kabamba n'est pas d'accord avec vous. Il soutient que l'ethnicisation est liée au système électoral, donc à comprendre. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de solution dans cette optique-là, monsieur le gouverneur.
Oui, je crois qu'il ne soit pas d'accord avec moi. C'est tout à fait normal, mais je me pose la question. Je crois si réellement dans cette mondialisation, nous devons continuer à changer nos rapports sociaux sur des rapports ethniques. Donc je crois quand même qu'il faut que nous puissions avoir un bon, que nous puissions nous comporter contre d'autres nations à travers le monde. Que les ethnies ne continuent pas à diriger la vie politique de la nation congolaise, sinon nous serons encore à l'époque médiévale. Et je voudrais aborder une autre question lorsque vous me posez la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais développé une théorie à un moment donné, la théorie du levier à 5 vitesses.
Ça
veut dire qu'il faut 5 démarches pour la paix à l'Est de la RDC. Il faut une démarche internationale, une démarche régionale, une démarche nationale, provinciale et locale. Sur le plan international, par exemple, il faudrait que la MONUSCO, qui a déjà beaucoup fait, soit une force d'intervention rapide. Comme ça avait été fait en Ituri, je crois que nous devons continuer à laisser une force. C'est de maintien de la paix, tout en observant des groupes armés qui se développent sans avoir une pression bien évidente sur ce groupe, et bien sur le plan international, on continuera à échouer. Sur le plan régional, il faudrait que tous les pays, par exemple, de la région des Grands Lacs, puissent adopter des mécanismes cohérents. Comme actuellement, on vient d'installer un centre de fusion des pays de l'enseignement qui sera basé à Goma et qui sera composé de tous les pays de la conférence de la région des Grands Lacs. Sur le plan national, par exemple, on doit identifier les problèmes que nous avons, c'est un problème militaire. Qu'est-ce que nous devons faire? Casernement des militaires, professionnalisation, recyclage et retraite des militaires, parce que quand on voit la pyramide de notre armée, c'est une pyramide renversée où nous avons beaucoup d'officiers plus que les soldats des rangs. Donc, les questions doivent être étudiées sur chaque levier, et à chaque levier, on adopte des solutions appropriées. Je crois que c'est de cette manière qu'on va devoir éradiquer définitivement tous ces fléaux qui gangrènent la vie politique dans notre pays et particulièrement à l'Est. Voilà moi la proposition que je donne, que j'ai pu formuler un jour dans une conférence que j'avais animée, pour me dire, si on prend un levier à 5 vitesses, eh bien, à commencer par le niveau local jusqu'au plan international, en établissant les responsabilités de chacun, je pense qu'on peut arriver à solution à la crise qui engraine notre pays et particulièrement l'Est.
Merci, M. le gouverneur. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Honorable Mohamed Boulé, le gouverneur Paluku propose la solution du levier une démarche en 5 points sur le plan international, régional, national, provincial et local. En guise de conclusion, quelle est votre analyse?
Je l'ai dit ici, en ce qui concerne le partage des rôles, je voudrais que les institutions, chaque institution s'y implique. Nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution parlement, nous avons l'institution gouvernement au niveau central et provincial et la justice. Si ces institutions fonctionnent, s'arrêtent pour évaluer les accords conclus pour le rétablissement de l'environnement et l'amélioration de l'environnement sécuritaire et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones qualifiées autrefois des zones contrôlées par le groupe armé qui continue à l'être, et on va trouver des failles. Et à ce moment-là, il faudrait circonscrire des objectifs spécifiques quant à ce qui concerne la réforme des forces armées, le redéploiement de l'administration et le redéploiement de la police nationale, des services de sécurité, et que la justice efface en toute indépendance ses missions pour rétablir et mettre tout le monde en paix, et ce sera la justice.
Professeur Bob Kabamba, un mot en guise de conclusion.
Un mot pour conclure, je vais revenir à ce qu'on a déjà dit en 2006. Il est hyper important que la MONUSCO fasse aussi son travail. Les thèmes d'engagement sont très clairs. Ils peuvent mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés. Dès l'instant qu'ils apparaissent, ils ont les moyens et ils ont le mandat pour le faire, mais ils ne le font pas. De mon point de vue, le gouvernement congolais peut, de manière très claire, redemander au niveau du Conseil de sécurité de pouvoir avoir le terme d'engagement clair pour permettre à ce que la MONUSCO fasse son boulot. Elle est payée pour ça et les financements sont là pour ça. La mission, elle est là pour ça.
Merci, voilà. Merci professeur. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, un mot pour rassurer la population du Nord, c'est vous qui vous suivez en ce moment. Voilà, le gouverneur Julien Paluku est déjà parti. Merci. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur, d'y avoir participé. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Au revoir.